Chapitre 4. Squat. Mona rêvait qu'elle dansait dans la cage d'un bouge de Cleveland, nue sous une colonne de lumière chaude et bleue qui se reflétait dans le blanc des yeux, levés vers elle à travers le voile de fumée. Ils avaient l'expression des hommes lorsqu'ils vous observent danser, très concentrés, mais en même temps, totalement renfermés sur eux-mêmes, de sorte que leur regard n'exprimait rien, et leur visage, malgré la transpiration, aurait pu être sculpté dans une matière qui n'avait que l'apparence de la chair. Même si elle se fichait bien de leur aspect lorsqu'elle se trouvait dans la cage en hauteur, en sueur et se trémoussant en rythme, dans la troisième chanson de son passage, que l'effet de la bouise approchait de son paroxysme et qu'un regain de force dans ses jambes la soulevait sur la pointe des pieds. L'un d'entre eux lui attrapa la cheville. Elle tenta de crier, mais cela ne sortit pas immédiatement. Et lorsqu'elle hurla, ce fut comme si quelque chose la déchirait intérieurement, la blessait. Et la lumière se désintégra, mais la main, elle, resta là, autour de sa cheville. Elle se redressa sur le lit comme un diable à ressort, affrontant les ténèbres, écartant les cheveux de ses yeux. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie ?» Il posa son autre main contre le front de Mona et la repoussa dans le creux chaud du coussin. « Un rêve. » La main, toujours là, lui donnait envie de crier. « T'as une cigarette, Teddy ?» La main disparut. Cliquetis et éclats du briquet, puis les arêtes de son visage se détachèrent lorsqu'il en alluma une et lui tendit. Elle se redressa aussitôt, ramena les genoux sous le menton avec la couverture de l'armée par-dessus, comme une tente, parce qu'elle n'avait aucune envie qu'on la touche. Le pied brisé de la chaise de récup en plastique émit un bruit inquiétant lorsqu'il s'adossa et alluma sa propre cigarette. « Casse !» pensa-t-elle. « Fous-le par terre, que ça lui donne une excuse pour me tabasser encore. » Au moins, il faisait noir, et elle n'avait donc pas à regarder le squat. Le pire, c'était quand elle se réveillait avec la gueule de bois, trop malade pour bouger, et qu'elle était rentrée se coucher en ayant oublié de recoller le plastique noir. Le soleil lui montrait alors tous les moindres détails et réchauffait l'atmosphère pour les mouches qui s'en donnaient à cœur joie. Personne ne l'avait jamais saisie à Cleveland. Pour que quelqu'un parvienne à passer un bras à travers le champ de protection sans rien sentir, il aurait fallu qu'il soit si ivre qu'il n'aurait plus été en mesure de bouger, voire de respirer. Les clients privés ne l'attrapaient jamais non plus, sauf s'ils l'avaient convenu avec Eddie, avaient payé davantage, et c'était pour de faux de toute façon. Quoi qu'il désire, il fallait que ce soit une sorte de rituel, pour que ça ne semble pas se dérouler dans la vie normale. Et elle avait fini par aimer les regarder lorsqu'ils se lâchaient. C'était le moment intéressant parce qu'ils se retrouvaient ailleurs, impuissants, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Et c'était comme s'ils n'étaient pas vraiment là. Eddie, je vais devenir folle si je dois encore dormir ici. Il l'avait déjà frappée avant pour moins que ça. Alors elle baissa la tête contre ses genoux et la couverture, puis attendit. « C'est ça, » dit-il. « Tu préfères retourner à l'élevage de poissons-chats ? Tu veux retourner à Cleveland ?
Mais j'en peux plus. »«
Demain. »«
Quoi, demain ?
Ça te va, comme ça ? Demain soir, avec un putain de jet privé, direct vers New York. Tu vas peut-être arrêter de me casser les couilles comme ça. »«
S'il te plaît, chérie. »
Et elle tendit un bras vers lui.
« On peut prendre le train ?»
Il repoussa sa main. « T'es vraiment débile. » Si elle continuait à se plaindre du squat ou du fait qu'il n'arrivait à rien, que tous ses plans débouchaient sur que dalle, il s'y mettrait, elle le savait. Comme la fois où elle avait crié à cause des insectes, ces espèces de punaises. Mais seulement parce qu'il y en avait au moins la moitié de mutantes. Le produit utilisé pour tenter de les éradiquer avait niqué leur ADN et on les voyait mourir avec des pattes ou des têtes en trop ou en moins. Et une fois... elle en avait repéré une qui paraissait avoir avalé un crucifix ou un truc comme ça, son dos ou sa carapace si déformée qu'elle avait eu envie de vomir.
« Chérie, » dit-elle en essayant d'adoucir sa voix. « Je n'y peux rien, mais je ne supporte plus cet endroit. »«
Au Hooky Greens, » dit-il comme s'il ne l'avait pas entendu. « J'étais au Hooky Greens et j'ai rencontré un gars important. Il m'a repéré, tu sais. Il s'y connaît. » Elle percevait presque son sourire dans le noir. « Il est de Londres, en Angleterre. C'est un dénicheur de talent. Il est entré au Hookies et m'a lancé direct. C'est toi, mon gars.
» Un client ?
Selon Eddie, c'était au Hooky Greens que tout se passait depuis peu, au 32e étage d'un gratte-ciel de verre dont on avait abattu la plupart des murs pour créer une immense piste de danse. Mais il avait cessé de fréquenter l'endroit car personne ne s'intéressait vraiment à lui. Mona n'avait jamais vu le dénommé Hooky. Hooky Green, la sale mine. Le sportif à la retraite qui possédait la boîte. Mais c'était un chouette endroit où danser. Tu m'écoutes, oui ? Putain, un client, non. Mais n'importe quoi. Il assure, connaît plein de monde. Il est en haut de l'échelle et il va m'aider à grimper. Et tu sais quoi ? Je vais t'emmener.
Mais il veut quoi ?
Une actrice. Un genre d'actrice. Et un type malin pour l'accompagner.
Une actrice ? Et l'accompagner où ?
Elle l'entendit défaire la fermeture éclair de sa veste. Quelque chose atterrit sur le lit près des pieds de Mona. 2000.
Mince. Ce n'était peut-être pas une blague. Mais dans ce cas, c'était quoi ?
Tu t'es fait combien ce soir, Mona ?
90.
En réalité, c'était 120, mais elle estimait que le dernier était passé en heures supplémentaires. Elle avait trop peur pour lui cacher de l'argent en général, mais il lui fallait en conserver pour la Wheeze. Garde-les, achète des fringues. Pas des trucs comme pour le boulot. Pour ce voyage, pas besoin de montrer ton cul.
Quand ?
Demain, je t'ai dit. Tu peux dire adieu à Strou.
Quand elle entendit ça, elle eut envie de retenir sa respiration.
La chaise grinça de nouveau. 90, hein ?
Ouais.
Raconte-moi.
Je suis vraiment fatigué, Eddie.
Non, dit-il.
Mais il ne voulait pas la vérité, ni rien d'approchant. Il voulait une histoire. Celle qui lui avait appris à raconter. Il ne voulait pas savoir de quoi ils avaient parlé, et la plupart d'entre eux tenaient à dévoiler quelque chose et ne s'en privaient généralement pas, ni comment il s'y était pris pour demander à voir ses analyses de sang, ni qu'un type sur deux sortait la même blague sur cette maladie incurable qu'on ne pouvait pas guérir, mais qu'on pouvait empêcher de progresser, ni même apprendre ce qu'il désirait faire au lit. Eddie voulait qu'elle lui parle d'un type baraqué qui la considérait comme une moins que rien. Sauf qu'elle devait faire attention lorsqu'elle lui racontait à ne pas dépeindre un tableau trop violent, car cela devait coûter plus cher que ce qu'il avait payé. Il fallait faire comme si ce client imaginaire l'avait traité comme un appareil loué pour une demi-heure. Il y en avait évidemment beaucoup dans ce genre, mais la plupart dépensaient leur argent dans des salons à poupées ou y accédaient par lastime. Mona héritait surtout de ceux qui désiraient parler, lui offrir un sandwich après. Ce qui pouvait également s'avérer affreux, mais cela n'avait pas le comportement qu'Eddie recherchait. Et il voulait aussi qu'elle lui raconte qu'elle n'aimait pas ça, mais qu'elle finissait tout de même par en avoir envie, une envie folle. Elle tendit le bras dans le noir et toucha l'enveloppe remplie d'argent. La chaise grinça de nouveau. Alors, elle lui détailla comment, en sortant d'un bailo, il l'avait entreprise, cette armoire à glace, qui lui avait simplement demandé combien. Ce qui l'avait gêné, mais elle lui avait tout de même répondu et avait dit d'accord. Ils étaient donc allés dans sa voiture, vieille, immense, qui puait le moisi, un détail piqué à sa période Cleveland. Et il l'avait renversée sur le siège.
Devant le bailo ?
Derrière.
Eddie ne l'accusait jamais d'inventer, même si elle savait bien qu'il avait dû lui faire un jour un résumé de cette histoire, et qu'il s'agissait toujours de la même. Quand,
Vint le moment où le grand type lui avait relevé la jupe, la noire, précisa-t-elle, et j'avais mes bottes blanches. Puis avait baissé son pantalon. Elle entendit Eddie défaire sa boucle de ceinture avant de retirer son jean. Elle se demanda alors, quand il se glissa dans le lit près d'elle, si la position qu'elle décrivait était physiquement possible, mais elle continua, et de toute façon cela fonctionnait pour Eddie. Elle se rappela de préciser à quel point ça faisait mal lorsque le type l'avait pénétré, quand bien même elle mouillait beaucoup. Elle raconta comment il lui tenait les poignets, même si elle commençait à ne plus savoir très bien dans quelle position elle se trouvait, à part qu'elle devait avoir le cul en l'air. Eddie s'était mis à la toucher, caressant ses seins et son estomac, alors elle était passée de la brutalité désinvolte des mouvements du client à ce qu'elle était censée avoir éprouvé. Des sensations qu'elle n'avait jamais connues. Elle savait qu'on pouvait parfois, en le faisant, avoir un peu mal et y prendre néanmoins du plaisir. Mais il n'était pas question de cela ici. Eddie voulait l'entendre dire que c'était très douloureux et qu'elle en avait honte, mais qu'elle aimait tout de même. Mona n'y trouvait aucune logique. Elle lui racontait quand même ce qu'il désirait, comme il lui avait appris, parce que cela fonctionnait. Et Eddie pivota alors sur lui-même avec la couverture sur le dos et se plaça entre ses jambes. Elle se disait qu'il devait tout voir dans sa tête comme un dessin animé ce qu'elle lui racontait. Et en même temps, il devait s'imaginer à la place du baraqué sans visage qui la besognait. Il lui tenait désormais les poignets au-dessus de la tête comme il aimait. Et quand il eut terminé et qu'il dormait sur le flanc, Mona resta éveillée dans la pénombre fétide, obsédée par son rêve de partir, éclatant et merveilleux. Pourvu que ce soit vrai.